podcast France Culture.
Proust était un grand voyageur en imagination. La sienne transfigure la réalité. Et la réalité, n'était-ce pas qu'il était un grand casanier, ou du moins un de ces Parisiens qui ne sortaient que très rarement de Paris et de France ? Adulte, il n'a voyagé qu'à Bruges, aux Pays-Bas et à Venise. Quelle est la carte géographique de Proust en France comme à l'étranger ? C'est ce dont nous parle Quentin Lafay dans Géographie à la carte.
Géographie à la carte, Quentin Lafay.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Géographie à la carte. Il me semble que l'on dépend des lieux pour l'esprit, l'humeur, la passion, le goût et le sentiment. Cette pensée de Jean de la Bruyère, issue des caractères, pourrait être une réflexion écrite ou exprimée par le narrateur de la recherche du temps perdu. Car la recherche n'a pas seulement à voir avec le temps, il est aussi un roman qui place l'espace en son cœur, un texte qui déploie la carte mentale de son auteur, un poème qui se nourrit des lieux et de la topographie, des paysages et des territoires pour les enrichir, mais plus encore pour servir le projet littéraire de Marcel Proust. Des métaphores, une sociologie, des réminiscences, une confrontation au réel fantasmé, une épaisseur des sentiments et de leur complexité, voilà tout ce que la géographie proustienne peut encapsuler. Alors ce soir, une émission un peu particulière, partons à la recherche des territoires perdus de Marcel Proust pour un périple sans boussole mais muni de textes, un voyage littéraire et poétique de Combray à Balbec, une géographie de l'imaginaire proustien. Dépions ce soir les cartes de la recherche grâce aux trois invités que j'ai le plaisir de recevoir. Michel Collot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste de poésie française. Vous avez aussi énormément travaillé sur la notion de paysage dans une approche pluridisciplinaire et vous êtes aussi l'auteur de Pour une géographie littéraire, publié en 2014 aux éditions Corti. Avec nous également Mireille Naturel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes universitaire et ancienne secrétaire générale de la Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de Combray. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages sur Marcel Proust. Enfin, avec nous également Bernard Puy-Anchet. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Vous êtes maire du village d'Illiers-Combray dans le département de l'Eure-et-Loire, village qui a inspiré en partie, nous le verrons, la description de Combray dans le cycle romanesque de la recherche du temps perdu. Merci beaucoup à tous les trois d'être là. Nous sommes ensemble durant une heure jusqu'à 22h sur France Culture.
Je partis avec ma grand-mère pour Balbec.
Eh bien, qu'est-ce que dirait l'église de Balbec si elle savait que c'est avec cet air malheureux qu'on s'apprête à aller la voir ?
La veille même du départ, j'avais appris que mon père étant retenu au ministère, ma mère ne nous accompagnerait pas. Pour la première fois, je sentais qu'il était possible que ma mère vécût sans moi.
Même moi, je serais encore avec mon petit loup.
Autrement que pour moi.
Ma fille, je te vois imitant Madame de Sévigné, une carte devant les yeux et suivant tous nos mouvements. Citant Madame de Sévigné comme sa grand-mère. Je vais être obligée de me servir de tout le courage que tu n'as pas.
Il s'agissait d'un extrait de l'émission « Ville, le monde » diffusée sur France Culture en octobre 2013. Et on est à un instant où le narrateur est sur le point de partir pour Balbec, ville de la Côte-Fleurie en Normandie. Michel Collot, je souhaitais commencer avec vous pour tenter de comprendre qu'est-ce qui permet de rapprocher deux matières qui, a priori, semblent si distinctes, la géographie d'un côté, la littérature de l'autre. Qu'est-ce que la géographie littéraire dont vous êtes à la fois familier, mais aussi le passeur ?
Oui. Vous avez rappelé que j'ai beaucoup travaillé sur le paysage et bien entendu du point de vue de la littérature d'abord, mais en touchant très vite à toutes sortes d'autres formes d'une part d'expression artistique, paysage identifié comme genre pictural d'abord, mais le dialogue entre la peinture et la littérature laissait un peu de côté ce qui est au fond le substrat du paysage, c'est-à-dire sa géographie. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec des collègues géographes pour échanger, d'autant plus que on assistait, disons, depuis une quarantaine d'années déjà, à une sorte d'évolution un peu croisée et convergente finalement d'un certain courant de la géographie qui s'intéressait de plus en plus aux représentations, à ce que Armand Frémont appelait l'espace vécu. Des géographes se sont intéressés à ce que la littérature justement avait à dire. Et sur cette dimension-là, c'est-à-dire d'un espace vécu.
Vous écrivez justement, il y a une pensée spatiale du roman qui a une façon propre de faire de la géographie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
C'est un géographe qui l'a écrit, c'est Marc Brosseau qui a intitulé un livre « Des romans géographes ». C'est-à-dire que ce n'est pas des romans sur la géographie, ni des romans géographiques, mais des romans qui font à leur manière de la géographie. Et justement, pour faire entrer leurs lecteurs dans une dimension que la géographie moderne a investie, c'est-à-dire celle des représentations, celle de l'imaginaire. Et des géographes se sont mis en quelque sorte à l'école de la littérature.
Alors justement, l'un des tout premiers à avoir donné à la géographie littéraire ses contours, son ambition, c'est André Ferré, et qui a écrit un ouvrage intitulé « Géographie de Marcel Proust ». Mireille Naturel, qu'est-ce qui, vous, en tant que proustienne, en tant que familière de l'œuvre de Marcel Proust, qu'est-ce qui vous paraît intéressant de rapprocher ? Pourquoi les outils de la géographie peuvent être utiles pour comprendre l'œuvre proustienne ?
Alors, vous avez bien fait de rappeler l'ouvrage d'André Ferré, qui est vraiment le pionnier de la géographie littéraire. Et Michel Collot le cite, évidemment, dans ses ouvrages. Et c'est en 1939 qu'il publie la géographie de Marcel Proust. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est que André Ferré, géographe, est l'éditeur de la première édition de la Pléiade. Donc, c'est assez surprenant, et justement novateur, de confier la première édition de la Pléiade à un géographe. En tout cas, il le fait. Et ce n'est sans doute pas un hasard que ce soit Proust qui serve en quelque sorte de déclencheur, parce que dans l'œuvre de Proust, certes, c'est le temps qui domine, à la recherche du temps perdu, le temps retrouvé est la conclusion, mais l'espace est également premier, puisque l'ouvrage du côté de chez Swann, enfin le premier volume du côté de chez Swann, s'ouvre sur Combray. Bon, certes, le premier mot renvoie à la temporalité, longtemps je me suis couché de bonne heure, mais c'est le lieu qui est premier, Combray, ce village de l'enfance, et le lieu structure aussi cette œuvre, puisque nous avons deux volumes qui s'intitulent l'un, il n'y a pas que deux volumes dans l'œuvre, mais deux volumes qui s'intitulent l'un du côté de chez Swann, l'autre le côté de Guermantes. Donc déjà, on se situe dans deux espaces et dans deux côtés.
Michel Collot, vous étiez réagir ?
Non, mais c'était justement le premier mot, l'incipit du texte, c'est longtemps, mais le titre, c'est du côté de.
Bernard Pleuanchet, vous êtes maire d'Illiers-Combray, donc on l'a rappelé en introduction de cette émission, la ville où le début, en tout cas, de la recherche du temps perdu se déploie, et une grande partie de l'enfance du narrateur de la recherche du temps perdu. Quelle est l'empreinte aujourd'hui de Proust dans la ville dont vous êtes l'édile ?
Bien, je serais tenté de vous répondre qu'en fait, elle est partout. Elle est partout, d'abord, puisqu'évidemment, nous retrouvons, c'est sans doute le lieu le plus visité, la maison donc de Tante Léonie, où, en effet, Marcel Proust a passé trois années de son enfance. Vous retrouvez également cette présence au Pré-Catelan, le jardin de son oncle, et puis dans tous les autres lieux qui ont été associés à l'œuvre et qui l'ont inspiré. Donc je pense en particulier à l'église Saint-Jacques, vous parliez des paysages tout à l'heure, Michel. Bien évidemment, la plaine de Beauce, les collines du Perche, etc. Et comme le rappelait Mireille à l'instant, c'est le château donc de Tansonville, comme nous l'appelons, donc qui est en fait l'illustration du côté de chez Swann, et Villebon qui représente le château de Villebon, donc qui aujourd'hui est une très belle demeure, qui rappelle donc le côté de Guermantes. Donc comme je vous le disais, Quentin, vous retrouvez Proust à peu près dans tous ces endroits, et j'allais même dire dans les rues d'Illiers, puisqu'il a transformé des noms de rues, qu'il s'est approprié, j'allais dire, des maisons pour ses personnages. Et donc l'identité proustienne de la ville est évidente, en tout cas à mes yeux.
Et bien, sautons à pieds joints dans cette émission et tentons de comprendre d'abord le rapport de Proust, l'homme, au voyage et au déplacement à travers la France et à l'étranger.
Figurez-vous qu'il y a un grand hôtel à Cabourg, qui est du style, si vous voulez, 1910. On dirait une pâtisserie.
Philippe Soupeau.
Et quand j'étais enfant, enfin, si vous voulez, adolescent, il y avait une légende qui courait à Cabourg. On parlait d'un homme très singulier, et on disait, cet homme est bizarre, il loue, non pas une chambre, mais cinq chambres. Une au-dessus de sa chambre, une à droite, une à gauche et une en dessous, pour ne pas entendre de bruit. Et cet homme, je ne vous le cache pas, c'était Marcel Proust.
Mireille Naturel, pour comprendre le rapport de Marcel Proust au voyage, au déplacement, au lieu, au territoire, il apparaît peut-être important de casser l'idée que Marcel Proust est d'abord un casanier, un écrivain alité dans son appartement des Grands Boulevards.
Oui, tout à fait. Donc déjà enfant, il voyage avec ses parents et avec son frère, hein, celui qui l'a fait disparaître de l'œuvre, alors qu'il est présent dans les œuvres inédites qui ont précédé la recherche. Donc il va déjà à la campagne, 3 ans de suite, et il cesse d'aller à Illiers à cause des graminées, hein, puisque lorsqu'il vient en Beauce, le village s'appelle Illiers, et à cause des graminées, et c'est là qu'il fait la découverte de Cabourg, devenu Balbec dans l'œuvre, puisque l'air marin lui convient beaucoup plus que l'air de la campagne, précisément donc à cause de son asthme qui s'est développé. Alors, donc il y a ces petits voyages-là. Ensuite, il fera deux voyages importants, la Hollande, en 1902, avec Bertrand de Penelon, et ensuite, ce sera Venise, évidemment, avec Reynaldo Hahn et sa mère. Donc, le voyage a quand même un but assez précis et très très personnel pour lui. Enfin, ces deux grands voyages, la Hollande et Venise, c'est quand même des voyages qui, d'une part, sont liés à l'affectif, un sentiment amoureux dans les deux cas, et déclaré ou non déclaré, et puis aussi l'art. Hein. Que va-t-il chercher aux Pays-Bas? C'est évidemment la peinture, et il y part avec l'œuvre de quelqu'un que l'on méconnaît et que j'essaie de réhabiliter, Fromentin et les maîtres d'autrefois. Et à Venise, eh bien, il est sur les traces de Ruskin.
John Ruskin, le penseur anglais.
Tout à fait, John Ruskin, dont il a traduit les deux œuvres, avant même d'écrire. Il a besoin de commencer à traduire, et puis il est fasciné par cette esthète, par sa représentation de l'architecture notamment. Et il part à Venise avec le livre de Ruskin, Les Pierres de Venise. Donc il y a toujours un rapport quand même à l'art dans le voyage qu'il entreprend. Et pour ce qui est de sa vie quotidienne, c'est un Parisien avant tout. Certes, il a vécu un certain nombre d'années enfermé dans sa chambre au mur recouvert de liège, qui vient d'être reconstitué d'ailleurs et bien amélioré au musée Carnavalet. Mais il a aussi eu une activité mondaine, il fréquentait le Ritz abondamment, il fréquentait les salons du boulevard Saint-Germain, donc il n'a pas toujours été l'homme du confinement que l'on dépeint.
Il y a même une géographie parisienne de Marcel Proust.
Oui, il y a une géographie parisienne de Marcel Proust. Alors ce n'est peut-être pas celle qui est la plus exploitée, parce que bon, Paris c'est grand et il n'y a pas de Société des Amis de Proust à Paris, ni de cercle littéraire proustien comme à Balbec, Cabourg-Balbec. Mais bien sûr, il y a les quartiers. Enfin, ce serait peut-être plutôt une sociologie d'ailleurs du milieu parisien qu'il faudrait préciser. Donc il y a le Faubourg Saint-Germain qui est l'espace mondain auquel il veut accéder et qui se refuse à lui, du moins dans les premières années, jusqu'au moment où on reconnaît son génie. Et puis il y a les quartiers plus bourgeois, il y a aussi vers les quartiers de la gare d'Austerlitz où habite Swann, mais c'est le déshonneur, le restaurant La Pérouse. Il y a tous les quartiers aussi où Swann recherche, tel Orphée partant à la recherche d'Eurydice, recherche Odette.
Et Michel Collet, pour poursuivre progressivement notre cheminement, on pourrait se dire au fond que l'objet premier d'une géographie littéraire serait justement l'étude du contexte de la production littéraire et l'étude des lieux dans lesquels ces textes ont été produits. Qu'est-ce que ces voyages nous disent de Proust et comment ils nous laissent entrevoir l'œuvre littéraire qu'il est en train d'écrire?
Oui, alors pour la géographie littéraire, finalement, il y a deux entrées possibles, c'est-à-dire la géographie de la littérature, c'est-à-dire la façon dont le travail d'un écrivain s'inscrit dans un espace où il a réellement vécu, en fonction aussi, en effet, de ses fréquentations dans les différents milieux dont il est l'habitué, encore plus le contexte littéraire. Et c'est finalement ça, le champ aussi de l'histoire littéraire. Alors que une géographie littéraire peut aussi s'intéresser à la manière dont la géographie s'inscrit dans la littérature. Et c'est plutôt ce côté-là, si je peux dire, que j'ai un peu investigué dans la mesure où, chez Proust, la représentation d'un certain nombre d'espaces, dont évidemment Combray et Balbec, dont on vient immédiatement de parler, constitue ce qu'il appelle, moi c'est une expression qui m'a beaucoup frappé, les gisements profonds de son sol mental. Il dit ça à propos du côté justement de chez Swann et du côté de Guermantes, et vraiment c'est une expression qui montre à quel point les lieux peuvent être dans la recherche, qui est bien sûr la recherche du temps perdu, mais aussi cette recherche du temps perdu se fait par l'exploration de ces gisements profonds, comme une sorte non seulement de géographie, mais de géologie, parce que dans ces lieux sont inscrits, finalement, est inscrite toute une mémoire. Et ce qui est très frappant pour ces rapports entre le temps et l'espace que vous évoquiez au début, c'est que la mémoire involontaire, c'est-à-dire celle qui véritablement va produire le projet de la recherche, elle est très souvent liée au lieu. C'est cet extraordinaire, évidemment, passage de la Madeleine, où tout d'un coup, tout Combray, avec quasiment un plan de Combray, sort de la tasse de thé. Ça veut dire aussi toute l'enfance, toute la mémoire, toute une profondeur de temps. Il y a une expression, le narrateur sent, dit-il, la rumeur et la résistance des distances traversées. C'est-à-dire que la profondeur du temps est en quelque sorte rendue accessible par les profondeurs de l'espace.
C'est la géographie réminiscente et nous y reviendrons. Bernard Puyanchet, que reste-t-il à Illiers-Combray, justement, on l'a dit, qui est le lieu notamment dans lequel Marcel Proust passait des moments de son enfance. Que reste-t-il concrètement, de manière visible, de ces passages, de ces traversées, de ces moments vécus?
Eh bien, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, d'abord la maison de sa tante.
La tante Léonie.
Son oncle, voilà, la célèbre tante Léonie. Maison donc du 19e siècle, qui est pleine de charme. Dont nous devrions voir bientôt des travaux de rénovation s'engager. C'est évidemment d'abord cette demeure bourgeoise. C'est, comme je vous le disais également, le Pré-Gatelan, donc qui est le parc de son oncle. Et puis toutes ces étapes, je dirais, que Marcel Proust a pu citer, ou tout au moins qui l'ont inspiré au travers de son œuvre. Et c'est pour moi, en tout cas, l'église qu'il a baptisé donc Saint-Hilaire et qui en vérité s'appelle l'église Saint-Jacques. C'est ces deux châteaux dont je vous parlais, celui de Tansonville et celui de Villebon. C'est également, j'allais dire, dans beaucoup de maisons anciennes de la ville, cette espèce d'empreinte. Et puis, puis également pour moi qui suis islérien peut-être plus que pour d'autres, une espèce de géographie là aussi des personnages de son œuvre. Enfin, je pense entre autres au docteur Percepied ou à des personnages éminemment connus de l'œuvre. Encore une fois, aujourd'hui, nous savons les situer, nous savons leur donner une véritable place.
Eh bien justement, c'est vous qui nous le conseillez, pardon. Entrons dans cette œuvre, entrons dans l'œuvre de Marcel Proust.
Même à un simple point de vue réaliste, les pays que nous désirons tiennent à chaque moment beaucoup plus de place dans notre vie véritable que le pays où nous nous trouvons effectivement. Sans doute, si alors j'avais fait moi-même plus attention à ce qu'il y avait dans ma pensée quand je prononçais les mots « aller à Florence, à Parme, à Pise, à Venise », je me serais rendu compte que ce que je voyais n'était nullement une ville, mais quelque chose d'aussi différent de tout ce que je connaissais, d'aussi délicieux, que pourrait être pour une humanité dont la vie se serait toujours écoulée dans des fins d'après-midi d'hiver, cette merveilleuse inconnue, une matinée de printemps.
Un extrait lu par Anna Feulpin, il s'agissait de la troisième et dernière partie du premier tome du côté de chez Swann, Nom de pays, le nom. Ce qui est intéressant dans cet extrait, Mireille Naturel, c'est de voir que les lieux décrits par Proust, avant d'être des lieux vécus, traversés, observés, ce sont d'abord et avant tout, au fond, des lieux rêvés.
Tout à fait. Et l'exemple est tout à fait bien choisi. Le héros narrateur se projette dans un lieu avant d'y être. Enfin, il vit, si je puis dire, le lieu avant de le connaître et il l'associe d'ailleurs à un temps. Enfin, il y a toujours cette association temps-lieu et il le poétise. Donc c'est un lieu qui est idéalisé, ce qui, dans certains cas, provoque une déception quand le lieu est effectivement rencontré.
Michel Collot, vous écrivez « Je propose d'appeler géocritique l'analyse des représentations littéraires de l'espace telle qu'on peut la tirer d'une étude du texte ou de l'œuvre d'un auteur et non plus de son contexte. » Alors on y est. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet extrait? Quelle géocritique vous formuleriez de cet extrait, de ce moment où Proust rêve d'Italie?
Quand il est à Venise, il note à plusieurs reprises qu'il a l'impression d'être dans un rêve. Et donc, il a rêvé de Venise, mais à Venise aussi, y étant, il y a cette dimension onirique. Et alors, je pense que la géocritique, dont l'appellation recouvre plusieurs démarches différentes, mais pour moi, pour l'essentiel, consisterait à comprendre quels sont précisément les motifs, les thèmes, voire les structures de l'imaginaire d'un écrivain qui vont privilégier tel ou tel aspect, tel ou tel composant de l'espace et de la géographie pour en faire sa géographie. Il dit lui-même, d'ailleurs, je crois, que les deux côtés de Combray appartiennent à une géographie mentale ou une géographie idéale. Mais elle a sa logique et je pense par exemple au passage où depuis la chambre du Grand Hôtel qu'on évoquait, le narrateur évoque les vagues de la mer qu'il a sous les yeux et qu'il compare au fil d'une très longue métaphore filée qu'il compare à des montagnes. Et bien voilà, le surgissement de cette métaphore signale quelque chose qui se superpose au paysage en quelque sorte géographique, qui a peu de chance d'évoquer la montagne pour inscrire en surimpression un paysage imaginaire, et c'est l'étude de cette transformation que une géographie non plus seulement référentielle qui se bornerait à étudier la conformité ou non de la description à son modèle, mais une géographie critique qui permet de voir comment l'écriture, l'imaginaire, je dirais presque, met en crise la géographie, parce que voir des sommets, des cimes à Baalbek, voilà, c'est évidemment une dimension qui est...
Baalbek, qui, rappelons-le, se situerait au conditionnel sur la côte normande, sur la
côte
de
Brie. Oui, bien sûr, Cabourg, c'est certain qu'il y a un ancrage, mais dans la recherche, un certain nombre de personnages évoquent la région de Baalbek, qui aussi oscille entre la Normandie et la Bretagne, enfin du côté du Cotentin. Il y a une plasticité, il y a une géographie flottante. Et cette géographie flottante permet justement d'investir les lieux par l'imaginaire.
Mais vous parliez des paysages et des paysages proustiens. Attardons-nous un instant sur cette notion.
Une fois dans les champs, on ne les quittait plus pendant tout le reste de la promenade qu'on faisait du côté de mes églises. Ils étaient perpétuellement parcourus, comme par un cheminot invisible, par le vent qui était pour moi le génie particulier de Combray. Chaque année, le jour de notre arrivée, pour sentir que j'étais bien à Combray, je montais le retrouver qui courait dans les sillons et me faisait courir à sa suite. À gauche était un village qui s'appelait Champieux, Campus Pagani selon le curé. Sur la droite, on apercevait par-delà les blés, les deux clochers ciselés et rustiques de Saint-André-des-Champs, eux-mêmes effilés, écailleux, imbriqués d'alvéoles, guillochés, jaunissants et grumeleux, comme deux épis.
Mireille Naturel, on assiste là à l'un des exercices favoris de Marcel Proust, la réminiscence. Et cette fois-ci, ce n'est pas la Madeleine, mais c'est le paysage qui sert de truchement, de vecteur à cette réminiscence. Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Bien, en écoutant ce texte, je me dis qu'il y a quand même toujours une strate qui est une strate réaliste. Il a un don d'observation très fort, Proust. Les paysages qu'il décrit, on les connaît. Bernard Puyenchet encore mieux que moi.
En l'occurrence, en effet, c'était ceux de Combray.
Nous avions reconnu.
Donc les herbes, les paysages avec leurs églises aussi, le vent, on peut le sentir aussi, le vent, les fleurs que l'on voit encore de façon d'ailleurs très, très magique à l'heure actuelle, les coquelicots, les aubépines, les églantines que Proust cite avec tant de joie, et il nous cause aussi beaucoup de joie en les citant. Donc il y a quand même toute cette strate qui est une strate d'observation très fine, très sensorielle. Cela, on n'en a peut-être pas encore parlé, mais c'est très évident dans Jean Santeuil, donc, qui précède à La recherche du temps perdu, le paysage est omniprésent, encore plus que dans La recherche, mais il n'est pas structuré, il n'a pas une fonction didactique, il ne démontre pas quelque chose, il ne démontre pas une poétique qui est celle de Proust, il est encore très, très instinctif, très spontané, et donc on voit un Proust très sensible aux fleurs, notamment aux parfums. C'est un être extrêmement sensible et sensoriel. Et donc, il y a cette phase, cette strate-là. Et puis ensuite, effectivement, comme vous le dites, les choses se mettent en place, se construisent. Et c'est la mémoire qui entre en jeu. Et autre chose aussi qui est très nette ici, c'est ce qu'on a appelé avec notre jargon structuraliste dans les années 80, la métaphore à fondement métonymique, en reprenant, en empruntant l'expression à Genette. Le clocher, comme il se trouve au beau milieu de des champs, eh bien, il est comparé à un épi de blé. Quand il s'agira du clocher de Cabourg-Balbec, enfin de Balbec dans l'œuvre, eh bien là, il sera comparé à un poisson. Donc il y a toujours ce processus métaphorique, rapprocher deux éléments de façon à ce qu'ils se superposent et qu'il n'en reste plus qu'un, finalement, un absolu, et emprunter le comparant à l'espace qui environne l'élément décrit.
Bernard Planchet, vous qui connaissez justement si bien ces paysages, les alentours de Combray, lorsque vous lisez ou relisez les pages de La recherche du temps perdu, est-ce que vous reconnaissez ces lieux, ces endroits qui sont décrits? Est-ce qu'ils sont conformes à la vision que vous en avez et à la manière dont vous les traversez?
Ben écoutez, je crois que je me livre en fait à chaque fois à une espèce de quête de ces signes et de ce qui peut révéler, comme le disait à l'instant Mireille, cette espèce de composition mêlée entre la réalité et l'imagination de Proust. Donc c'est un véritable exercice, en tout cas, auquel je me livre, et je suis certain qu'il y a beaucoup de lecteurs de Proust qui évidemment viennent à Combray, à Illiers Combray pour justement cette recherche. Et ça me paraît un des éléments essentiels justement.
Pour comparer le texte et
oui, bah bien sûr,
et le paysage.
Un véritable défi, un véritable jeu, j'allais dire.
Michel Coulot, est-ce que vous diriez que le paysage chez Proust a vocation à se détacher du réalisme?
Alors, je crois que Mireille avait tout à fait raison d'insister sur le fait que si je parle d'imaginaire, ça n'est pas nécessairement l'idée que c'est un autre monde. C'est à partir d'expériences tout à fait réelles, tout à fait concrètes, que se déploie un imaginaire. Jean-Pierre Richard a écrit un beau livre sur Proust qui s'appelle Proust et le monde sensible. Et le registre du sensible est précisément peut-être cette dimension là du paysage qui va servir d'intermédiaire entre la géographie du paysage, l'aspect réel de la description du paysage et le passage à quelque chose qui est plus subjectif, qui est l'impression d'abord, et l'impression telle qu'elle va pouvoir aussi alimenter un imaginaire. À propos de ce passage, je me souvenais que il y a un moment, Mademoiselle Swann fait des séjours à Laon. Et le narrateur dit, pendant ces séjours, j'étais dans la plaine, celle qu'on vient d'évoquer, et le vent, ce vent va lui apporter, en fait, j'ai l'impression d'être lié à elle par ce vent. Or, Laon, si on prend il y est comme référent géographique de Combray, se trouve au moins à 200 kilomètres, et la plaine de Laon est quand même pas forcément la Beauce qui voisine Combray. Donc c'est intéressant parce que à partir de cette sensation très 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 fine et très, je crois, intensément vécue. C'est cet espace vécu dont parlait le géographe Armand Frénemont. On voit bien comment le désir, comment l'imaginaire peut extrapoler en quelque sorte pour créer une géographie qui, elle, est imaginaire.
Alors au-delà de la réminiscence, Mireille Naturel, vous l'avez effleuré tout à l'heure, le paysage, les lieux ont aussi une fonction quasiment sociologique. Si on prend l'exemple de Combray, il y a évidemment d'un côté le côté, si je puis dire, de chez Swann, et de l'autre celui de Guermantes, deux sociologies différentes, bien distinctes, orientées, articulées par la géographie.
Il y a deux côtés, oui, le côté de chez Swann, qui s'est appelé d'ailleurs le côté de mes églises. Hein. La géographie était encore plus présente dans le texte à l'origine. Hein. Donc le côté de mes églises, parce qu'il y a toute cette pratique onomastique aussi dont on n'a pas encore parlé, mais il y a tellement de choses à dire. Le lieu, le paysage se construisent à partir de noms. En fait, c'est la nomination qui crée la création,
on
je pense.
Venir, chez... oui, ah bon, on...
Donc, il y a le côté de mes églises et le côté de Guermantes, qui s'est d'abord appelé le côté de Villebon, ce qui nous permet de les localiser. Si monsieur le maire connaît si bien ces deux châteaux, c'est que on a les avant-textes et on sait que le côté de Villebon a précédé le côté de Guermantes. Bon, ce n'est pas aussi simple que cela. Hein. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on va en parler en fin d'émission, mais il y a un nouveau château de Swann qui vient d'ouvrir et qui attire des touristes. Donc, bon, contestation, maintenant nous avons deux châteaux de Swann. Bon, plus nous en avons, mieux c'est. Je pense, et en plus c'est fidèle au principe de la création proustienne. Donc oui, il y a deux espaces sociologiques, le côté de mes églises, le côté de Swann, de chez Swann, c'est le côté de la bourgeoisie, et puis il y a le côté de Guermantes, qui est le côté de l'aristocratie. Mais ce n'est pas que cela. Hein. Et ces deux côtés sont aussi très distincts par les paysages, justement, au sens premier. Le côté de la plaine, hein, c'est le côté de chez Swann, et puis le côté aquatique, le côté de Guermantes, parce qu'il y a des champs quand on va vers Tansonville, et parce qu'il y a la Vivonne, enfin, qui est une création proustienne, hein, il y a la Tironne dans la réalité, et il y a aussi un type de femme. Alors, ça aussi, on n'en a pas encore parlé, mais le paysage chez Proust est associé au féminin. Et c'est ça qui le rend sans doute si sensible.
C'est-à-dire, pardon.
Le côté de chez Swann, c'est le côté où il tombe amoureux de Gilberte. Mmh. Et le côté de Guermantes, puisqu'il a la capacité de tomber follement amoureux très souvent, eh bien le côté de Guermantes, c'est là où il tombe amoureux de la duchesse de Guermantes, et donc il y a la couleur de ses yeux, le bleu, et de l'autre côté c'est les taches de rousseur et la rousseur des cheveux de Gilberte. Donc c'est tout un système, hein. C'est la géographie proustienne est très complexe, et donc l'œuvre progresse, parce que comme Proust l'a dit en 1913, quand ses détracteurs ont considéré qu'il n'y comprenait rien de ce qu'il écrivait, il a dit « mais attention, il faut lire l'ensemble ». Bon. Et dans le temps retrouvé, eh bien, on apprend que ces deux côtés sont reliés par un chemin. Parce que du côté de chez Swann, vous savez qu'on sort par une porte ou par une autre porte. Alors ça, c'était un casse-tête pour moi quand je guidais la promenade des Aubépines, parce que les touristes, les visiteurs, les adhérents veulent absolument savoir quelle est la porte qu'il faut emprunter pour aller du côté de chez Swann et celle qu'il faut emprunter pour aller du côté de Guermantes. Et donc, ce sont deux côtés distincts et c'est pratiquement un drame pour l'enfant. Et à la fin du temps, dans le temps retrouvé, donc à la fin de l'œuvre, il apprend par Gilberte, eh bien qu'il y avait un petit chemin qui réunissait les deux, et donc les deux espaces sociaux, cette fois-ci, de la bourgeoisie et de l'aristocratie, sont reliés, comme l'incarne Gilberte, qui était Swann à l'origine, fille de Swann, et qui a épousé Robert de Saint-Loup.
Bernard Pianchet, quelle est la réalité à Illiers-Combray, sociologique, de cette distinction entre le côté de chez Swann et le côté de Guermantes?
Bien, c'est peut-être l'un des points, parmi tant d'autres sans doute, mais en tout cas l'un des points pour lequel je ne ferai pas cette fois de parallèle entre l'œuvre et la réalité. Illiers-Combray est évidemment une petite ville donc de 3500 habitants, située dans ces zones rurales, en proximité de la grande sphère parisienne. Et on ne peut plus évidemment citer de membres illustres, je veux dire, de la noblesse locale, et peut-être simplement retenir qu'Illiers, comme la plupart de ces bourgs, connaît ce que l'on pourrait aujourd'hui, en tout cas, avec un peu de difficulté, mais enfin définir comme une bourgeoisie locale, et puis une population, je dirais, peut-être moins touchée par ces catégories. Mais autant, puisque vous me posiez la question tout à l'heure, Quentin, autant on peut retrouver l'imaginaire, les lieux, presque ce parfum, j'allais dire, proustien, autant je ne sais pas, en tout cas, moi, vous perpétuer en tout cas cette distinction entre le monde bourgeois et le monde aristocratique. Pour moi, il n'y a plus, en tout cas dans la réalité, un côté de chez Swann et un côté de Guermantes.
Mais ce qui est intéressant, Mireille,
allez-y,
vous souhaitiez
réagir. Le château de Villebon a encore une famille aristocratique, de la Rodière.
Absolument. Alors
vous pouvez citer leur nom, d'ailleurs.
De la Rodière.
Oui, tout à fait. Alors, oui, en effet, aujourd'hui, on pourrait malgré tout encore tirer quelques bords sur cela. Le château donc de Villebon, donc qui est l'incarnation, j'allais dire, de la représentation en tout cas de Guermantes, est toujours la propriété en effet d'une famille aristocratique, la famille de la Rodière, et du côté de chez Swann, une autre famille de l'industrie. De la grande industrie française, dont on ne peut pas dire non plus que ce soit véritablement de la bourgeoisie.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez Géographie à la carte, et ce soir, de Combray à Balbec, une géographie de l'imaginaire proustien. Nous revenons tout de suite. Il s'agissait de la balade en fa dièse majeur, l'opus 19 de Gabriel Fauré, interprété ici par Léonard Bernstein et qui a largement inspiré la fameuse sonate de Vinteuil, une œuvre fictive pour violon et piano qui tient dans la recherche du temps perdu une place majeure. Mireille Naturel, vous avez évoqué tout à l'heure l'importance des noms donnés aux lieux. Ce qui est parfois difficile de comprendre, c'est pourquoi certains noms de lieux, justement, sont modifiés. Alors, on parle de Combray-Pourillier, on parle de Balbec pour plusieurs villes normandes, pour Cherbourg, mais vous allez nous expliquer que c'est pour plusieurs villes normandes en réalité. Et quand il s'agit de parler de Venise, on parle de Venise. Alors, comment cette distinction-là s'opère ?
Alors, pour Combray, c'est très complexe. Combray, c'est un toponyme qui existe en Normandie. C'est vraiment le cas même de l'emprunt et du transfert de la Normandie à l'Eure-et-Loire, comme cela se produit assez souvent finalement chez Proust. Donc c'est un toponyme, c'est aussi un château en Normandie, que le château de Combray. Certes, il y a un village à côté d'Illier qui s'appelle Combre. Bon, on dit que Proust a aussi sans doute pensé à Combourg, Chateaubriand. Il était un grand admirateur de Combourg. Donc la création proustienne se compose souvent de plusieurs éléments empruntés dans des lieux différents ou dans des lieux différents. Et là encore, on peut toujours comparer avec ce que nous propose Jean Santeuil, hein, le roman autobiographique qui n'a pas été publié du vivant de Proust. Et Combray n'existe pas, c'est Éteuil, c'est Étreuil, et c'est Illier. Hein. Là, il dit bien Illier, il y a un chapitre consacré à Illier. Donc, c'est comment fait-il à ce moment-là ? Il cherche vraiment une forme phonique, et Éteuil rime avec Auteuil. Parce qu'il faut également dire que Combray, certes, c'est Illier, mais c'est aussi Auteuil, le village maternel. Pour Balbec, on l'a déjà dit, c'est Cabourg, c'est sans doute Trouville, c'est sans doute aussi Bémiel, je crois qu'on dit comme cela, que les Bretons disent comme cela. Alors Venise, c'est autre chose, effectivement, Venise, c'est Venise. Peut-être que précisément Venise, c'est Venise et ça ne peut pas être autre chose, c'est inégalable et c'est une ville merveilleuse, c'est une ville qui appartient au monde entier et c'est aussi une ville où il se rend quand il est adulte. Donc il est sans doute plus dans le réel et c'est la ville d'art. Je crois que Venise a vraiment un statut à part dans l'œuvre de Proust.
Michel Collot, sur ce sujet des oui, noms donnés au lieu.
Il semble que une des raisons de ce clivage en fait entre une géographie qui est largement marquée par l'enfance et qui est par certains égards brouillée, flottante, et finalement Venise et aussi Paris. Ces villes sont tellement marquées, non pas par l'histoire personnelle, mais par l'histoire collective, qui est aussi l'histoire de l'art, que il était impossible de faire ce jeu. Alors que, évidemment, Balbec et Combray n'étant pas forcément reconnaissables, identifiables par le lecteur, ils s'offrent l'un et l'autre, chacun à sa manière, à tout ce jeu, qui est un jeu aussi... Et Mireille l'évoquait, qui est aussi un jeu sur les noms. Hein. Il y a cette fameuse partie quand même, nom de pays, le nom. Hein. Et ce qui est tout à fait évident, c'est que les toponymes sont recherchés aussi pour leur qualité de suggestion à partir de leur signifiance en fait. Et il y a de merveilleux portraits de villes dans cette section du côté de chez Swann qui sont en fait induits par les qualités, les suggestions. Alors, on est assez proche, là, d'une géographie vraiment poétique, parce que c'est à partir, au fond, de ces sonorités, de ces désinences, que se construit véritablement le paysage d'une ville où le narrateur n'est même souvent encore jamais allé.
Eh bien, justement, écoutons le portrait de Balbec.
Pour Balbec, dès que j'y étais entré, ça avait été comme si j'avais entrouvert un nom qu'il eût fallu tenir hermétiquement clos, et où, profitant de l'issue que je leur avais imprudemment offerte en chassant toutes les images qui y vivaient jusque-là, un tramway, un café, les gens qui passaient sur la place, la succursale du comptoir d'escompte, irrésistiblement poussé par une pression externe et une force pneumatique, s'étaient engouffrés à l'intérieur des syllabes qui, refermées sur eux, les laissaient maintenant encadrer le porche de l'église persane et ne cesseraient plus de les contenir.
«
Justement, ce passage du nom de pays, le pays, et cet instant où le narrateur arrive à Baalbek pour la première fois, Mireille Naturel, la confrontation avec le réel, la découverte d'une ville, pour Marcel Proust, c'est souvent une déception.
Oui, c'est souvent une déception. Et puis, on apprend beaucoup de choses en regardant les manuscrits, les avant-textes. Et on sait, par exemple, que Baalbek, c'est aussi un peu Dives. Et des éléments descriptifs qui étaient accordés à Dives. Et à un moment donné, Dives était Combray, d'ailleurs, et le modèle de la petite ville de province. Eh bien, ces éléments fluctuent. Il y a toujours ce transfert dont je parlais tout à l'heure. Et vont à orner la ville de Baalbek. Alors oui, il y a très souvent cette déception. Il y a cette déception aussi donc par rapport à Baalbek, parce qu'il y a deux Baalbek. Hein. Il y a le Baalbek près de la mer et le Baalbek en terre. Hein. Et le Baalbek en terre, auparavant, c'était Dives. Et la première déception, c'est que quand il arrive, c'est que Dives n'est pas en bord de mer. Et Dives, lorsqu'il vient là-bas, Proust, ne s'appelle pas encore Dives-sur-Mer. Donc ça, c'est déjà une première déception. Et il y en a de multiples déceptions, parce qu'il s'est construit une représentation imaginaire, même s'il se documentait aussi, Proust, notamment pour les trajets en chemin de fer. Hein. André Ferré, c'est plus à retracer le trajet en chemin de fer avec le nom des différentes gares où Proust, ou le train avait pris Proust, s'arrêtait. Et donc, là, il y a une documentation préalable. Il était un grand lecteur des guides de Johann, des indicateurs de chemin de fer.
Michel Collot, je vous vois
Oui, parce que sur réagir. Ce fameux itinéraire en train, Ferré montre bien que cet itinéraire est absolument impossible, parce que, en fait, il montre comme un trajet linéaire entre Paris et Baalbek. Il emprunte, en fait, plusieurs lignes de chemin de fer existantes qui ne communiquent qui est pas entre elles. Donc c'est absolument impossible. C'est assez amusant à suivre, parce que je crois que Proust connaissait parfois par cœur des trajets, mais là il fait un trajet qui est véritablement infaisable en train. Mais en même temps, il s'est en effet documenté, ça c'est sûr. Mais il en joue.
Oui, il en joue. Tout à fait.
Je suis devenu un lecteur totalement passionné parce que j'ai retrouvé mon Cabourg dans son Baalbek. Et là, j'ai une sorte de fusion. Et donc, j'ai lu avec, pas plaisir, mais avec gourmandise, Proust, car je retrouvais à chaque page des morceaux de ma vie de tous les jours.
Les trois Proustiens qui peuplent ce studio aujourd'hui ont tous opiné du chef. Ils ont tous reconnu qu'il s'agissait de Jean-Paul Henriet, l'ancien maire de Cabourg. Bernard Puanchet, qu'est-ce que ce témoignage vous évoque en tant que maire, vous aussi, mais Didier Combray?
Bien, je crois que ce que vient de dire Jean-Paul est tout à fait ce que je ressens au quotidien. C'est à la fois cette association de ce qu'est mon quotidien de maire, d'habitant et de natif d'Hillier-Combray, et celui qui occupe donc cette fonction de représentation de la ville. C'est tout à fait ce même sentiment, en tout cas, que je perçois.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que la géographie a traversé l'œuvre de Proust, mais Proust a lui-même transformé la géographie. Un seul exemple, mais vous allez nous en donner plusieurs. Le 8 avril 1971, Hillier est devenu Hillier-Combray. Les noms de lieux, les noms de villes changent sous l'influence de Marcel Proust. Pourquoi avoir choisi de transformer le nom de votre commune?
Alors, bien évidemment, je dois à la réalité de vous dire que je n'y suis évidemment pour rien.
Bien sûr, pardon.
C'est bien évidemment le travail de mes prédécesseurs et d'un monsieur particulièrement important dans l'histoire d'Illier et de ce mariage, de cette association, je dirais, des deux mots qu'est Louis-Philibert Larcher. Je crois tout simplement que cette modification du nom, pour, je crois, le meilleur des avenirs, nous le devons à deux volontés. La volonté donc du maire de l'époque, René Compère, et de ce personnage que j'ai tout juste aperçu quand j'étais enfant à Illier, puisque c'était encore Illier, Monsieur Larcher. Je crois qu'il a fallu l'association de ces deux volontés, de ces deux passions aussi pour l'œuvre de Proust, car l'un et l'autre étaient passionnés dans des fonctions différentes, mais en tout cas étaient passionnés de cette œuvre, de l'envie en tout cas d'associer encore une fois l'œuvre de Proust et aussi le personnage de Marcel Proust donc à notre ville. Et tous les deux ont s'y sont pris à plusieurs reprises, et puis in fine le conseil municipal a décidé de demander donc au ministre de l'Intérieur de l'époque de bien vouloir attribuer ce nom de Combray à Illier, et je crois que les choses se sont relativement bien déroulées après quelques échecs, et donc en 1971 la ville a pu en effet se voir dotée de ce superbe nom de Combray.
Et aujourd'hui, les noms de lieux continuent de se transformer à Illier-Combray sous l'influence de Marcel Proust, et notamment les noms de rues.
Oui, alors les noms de rues, alors peut-être pas se transformer, mais en tout cas, nous sommes en train d'étudier une signalétique qui distingue à la fois le nom des rues d'aujourd'hui, j'allais dire des rues, noms de rues officielles, et la cartographie des rues proustiennes, de façon à ce que les visiteurs, là aussi, puissent se retrouver entre la cartographie de la réalité et la cartographie proustienne.
Mireille Naturel, vous partagez votre temps entre Paris et Illier-Combray, comme proustienne sincère. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette transformation justement d'Illier en Illier-Combray et cette réappropriation proustienne des noms de rue?
On est tout à fait dans l'esprit de Proust, parce que depuis quelque temps, je suis en train de penser à deux autres noms, à deux autres toponymes, c'est Vieux-Vic et Méséglise, qui sont deux toponymes qui sont dans l'œuvre de Proust. Ce sont des lieux importants. Enfin, je ne vais pas développer ce passage, mais dans la réalité, Vieux-Vic n'a pas de X, alors que Proust a ajouté un X, et Méséglise s'appelle dans la réalité Méréglise. Donc, il s'est bien amusé aussi avec les noms de lieux, hein, Proust. Il est plein d'humour, y compris à ce niveau-là. Alors, il a cité de nombreux noms de rue, il était fasciné par les noms de rue. Bon, certains noms qu'il cite, comme la rue du Saint-Esprit, portent à l'heure actuelle un autre nom, rue du docteur Proust. Je regrette un petit peu, enfin, c'est un choix à faire. Est-ce que on fait revivre entièrement le village comme dans l'œuvre de Proust, et c'est peut-être un petit peu quand même troublant pour les habitants, parce que tous les habitants ne sont quand même pas des Proustiens, on ne va pas non plus faire de ce village un village exclusivement Proustien. Donc c'est, je ne sais pas quelle est la meilleure politique, et puis ce n'est pas sans doute moi qui en déciderai de toute façon, mais quelques noms, quelques lieux, mais on peut approfondir encore les références à l'œuvre de Proust dans le village, parce que c'est vrai que c'est la fiction qui a alimenté la réalité. Par exemple, le mobilier, le décor de la maison de Tante Léonie, ce n'est pas le décor que Proust a connu. On n'en sait rien, puisque cette maison est passée entre différents propriétaires entre-temps. C'est un décor qui a été imaginé à partir de la fiction. Donc c'est assez troublant ce qui se passe.
Michel Collot, est-ce que la géographie littéraire s'intéresse aussi à la manière dont la littérature transforme la géographie ?
Oui, je pense que c'est la preuve quand même de la puissance de la littérature, que de pouvoir ainsi, par exemple, rebaptiser, c'est quand même un événement assez rare, surtout dans un pays administré comme le nôtre, d'arriver. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les deux noms sont accolés. C'est Illier-Combray, c'est-à-dire qu'on garde ce double ancrage dans le monde de la littérature et dans le monde. Et il y a des études qui tournent autour des questions du tourisme littéraire aussi, qui quand on va à Cabourg, on a droit à des panneaux sur la digue de Cabourg qui nous apprend à voir la plage de Cabourg comme Proust. Alors ça me laisse dans un sentiment un peu mitigé, mais après tout, la superposition d'un paysage réel et sensible, et du texte littéraire crée cette espèce de comme si on voyait double en fait, hein, une sorte de stéréo, et qui est assez intéressante pour comprendre ce qu'est un paysage, parce que le paysage n'est pas le pays, c'est l'image du pays, et pour la métaphore consiste à voir double, hein, à voir à la fois quelque chose, et finalement la présence d'extraits de textes peut être critiquée, mais je trouve qu'elle donne au fond une sorte de profondeur de champ au lieu, et ce serait finalement l'aboutissement de la géographie littéraire que de faire en sorte que, en tout cas, notre expérience de la géographie soit façonnée par la littérature. Et dans notre pays, on ne peut que se réjouir quand la mémoire littéraire est présente, fût-ce de manière un peu, parfois un peu contestable.
Bernard Puanchet, une réaction notamment sur ce qu'est aujourd'hui le tourisme proustien et dont Illié Combray profite au sens noble du terme, peut-être.
Oui, je crois, en tout cas pour rebondir sur les propos de Mireille et de Michel, l'idée bien évidemment, c'est absolument pas de transformer le village en parc d'attraction, et comme l'avait formulé monsieur dont je voudrais saluer ce soir tout particulièrement la mémoire, à savoir monsieur Patrice Louis, qui fut d'abord journaliste bien connu sur Radio France. Il me l'avait dit, et il l'avait d'ailleurs fait écrire dans la presse, l'idée n'était pas de transformer Illié en Proustland. Et loin de moi cette idée, bien évidemment. Justement, je le disais, mais peut-être n'avez-vous pas relevé, il ne s'agit pas de gommer en tout cas ce qu'est Illié, la réalité d'Illié aujourd'hui. Donc, le souhait est de garder évidemment les noms de rues tels que l'histoire les a fait, mais d'y associer avec une plaque, je dirais tout simplement, posée à côté, pour rappeler encore une fois cette cartographie, cette géographie proustienne.
Est-ce que Proust continue d'attirer aujourd'hui à Illié Combray ?
Oui, alors évidemment, encore une fois, il s'agit à la fois d'une œuvre universelle, de par là, mais évidemment, cela restera toujours un tourisme littéraire, alors je n'aime pas du tout le terme, donc j'hésite à l'employer, mais élitiste, c'est toujours réduire en tout cas l'idée. Je crois qu'en tout cas, au-delà de l'œuvre, c'est tous ces lieux et tous ces paysages qui ont pu inspirer. C'est cela qu'en fait on essaie de valoriser. Donc des visiteurs, en tout cas des touristes, j'allais dire aujourd'hui, le seul moyen d'en mesurer véritablement le nombre, c'est ceux qui viennent visiter donc la maison de Tante Léonie. Alors nous avons connu un pic qui semble pour l'instant se maintenir aux alentours de 10 000 visiteurs, donc lorsque des événements étaient organisés en 2019. Donc pour l'instant nous sommes assez proches toujours des 10 000 visiteurs, mais j'espère que la rénovation de ce musée, que tous les travaux et les projets que nous portons vont pouvoir augmenter de façon très sensible donc ce nombre de visiteurs. Bon, néanmoins, l'œuvre de Proust n'est pas une œuvre facile d'accès, et certainement nous n'aurons jamais, et c'est d'ailleurs pas souhaitable, des milliers de visiteurs. Je crois qu'encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut préserver, certes faire partager, mais aussi préserver.
Mireille Naturel, l'actualité littéraire de Marcel Proust, c'est aussi la publication des 75 feuillets publiés justement par Gallimard cette année. Qu'est-ce que ces feuillets ont permis d'apprendre sur ou d'approfondir sur la géographie littéraire de Marcel Proust ?
Ces 75 feuillets qui ont été édités par Nathalie Mauriac, publiés chez Gallimard donc au printemps 2021, on les attendait depuis très longtemps. Ils avaient été cités en 1954 dans la préface du Contre Sainte-Beuve par Bernard de Fallois, et il a fallu attendre le décès de Bernard de Fallois pour y avoir accès. Alors, c'est une révélation, et pour les Proustiens, d'autant plus qu'on l'attendait, je vous dis, avec impatience. Il confirme l'importance du lieu, puisque les fragments publiés portent sur des lieux ou sur les noms nobles, et les deux côtés sont déjà mis en place. ce qu'ils nous apprennent aussi de très important, c'est l'importance, c'est la référence à la biographie. Dans ses premiers manuscrits, qui datent de fin 1907, début 1908, eh bien, la grand-mère s'appelle Adèle, la mère s'appelle Jeanne, le Swann, c'est l'oncle. Autrement dit, il semblerait confirmer l'importance du côté maternel de Combray, alors que l'appellation, la double appellation Illier-Combray le place plutôt du côté paternel. Alors là, on a la confirmation à l'origine, au départ. Par exemple, la scène du baiser du soir qui se déroule à Combray et que l'on situe dans une chambre de Combray, c'était à Auteuil.
Eh bien, il faudra sans doute une autre émission pour examiner cette fois le versant biographique de l'œuvre de Marcel Proust. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois, Michel Coulot, Mireille Naturel et Bernard Puanchet, de nous avoir conduits de Combray à Balbec et de nous avoir permis de mieux comprendre la géographie de l'imaginaire proustien. À la lecture des textes ce soir, en partie, c'était Anna Feulpin. À la réalisation, c'était Vanessa Nadjar. À la préparation, Sandrine Chaperon. Et Anna Feulpin, à la technique, Jean Frédérix.